Chapitre 49. Les nouvelles galères enfin prêtes, le roi Calvaire sentit le sang chauffer et chanter dans ses veines. Chaque jour, ses guerrières et ses guerriers, énergiques et motivés, avançaient à grands pas dans les préparatifs de guerre. Leur voix se faisant de plus en plus forte, ils se réunissaient le soir pour taper sur des tambours et rugir de férocité. Calvaire avait déjà vu ça. « La fièvre des raids !» disaient les Norokaïs. Mais il s'agirait de bien plus qu'une série de raids cette fois. Flanqué de son chaman albinos, Calvaire alla dans le port pour regarder la multitude des galères qui y mouillaient ou qui attendaient au large. Une armada jamais vue, vraiment. En plus des 40 bâtiments en service jusque-là, 50 nouvelles galères étaient opérationnelles et des dizaines d'autres ne tarderaient pas à suivre. Quand la flotte lèverait l'ancre pour partir à la conquête d'Ildakar, ce serait la plus impressionnante de l'histoire des Norokaïs, une force qui mettrait tout un continent à genoux. Chargés de dévaster les villes côtières, les deux capitaines en disgrâce, Kor et Lars, commanderaient 10 galères chacun. Bientôt le monde sentirait s'abattre sur son échine le point d'acier des Norokaïs. Au large de son île, le navire amiral du roi attendait son bon vouloir. Tous les autres bateaux étaient prêts, et quand ils devraient se ravitailler, ils ne manqueraient pas de villes à piller. De simples étapes sur le chemin d'Ildakar, l'objectif ultime. Pour leur mission suicide, Kor et Lars avaient conservé les hommes vaincus avec eux à Renda-sur-Bay et recruté des volontaires. De la racaille pour la plupart. Beaucoup de criminels désireux d'échapper à la prison et quelques joueurs criblés de dettes. Devant ces guerriers de fortune, Calvaire avait annoncé que tout passé, si répugnant fut-il, pouvait s'effacer avec du sang. S'il se comportait bien, ces femmes et ces hommes ne seraient pas pardonnés, mais ils recouvreraient leur honneur. Redevenus de fiers Norokaïs, ils pilleraient, tueraient et détruiraient jusqu'à ce que la mort les emporte à leur tour. Et si par miracle ils survivaient à la conquête du monde, les pires crimes ne leur seraient plus reprochés. Levant les yeux, Calvaire observa la falaise au sommet de laquelle se dressait le bastion. Le fief de ses ancêtres, où son père avait vécu et où il était mort. Son foyer aussi, depuis qu'il régnait sur les Norokaïs. Tant d'histoires, de gloire, de rêves. Pourtant, si Kor n'avait pas exagéré au sujet d'Ildakar, le roi ne reviendrait sans doute plus ici. C'était triste, mais qu'aurait fait le maître du monde sur une île perdue? Avant que l'armada prenne la mer, cependant, il fallait procéder à un important sacrifice. Pour que la victoire leur sourit, les Norokaïs savaient très exactement que faire. Non loin du roi, de solides guerrières faisaient cercle autour d'un grand tambour en peau de serpent qu'elles martelaient de coups de massue. Se répercutant contre la falaise, leur musique martiale parvenait à couvrir le bruit des vagues qui se fracassaient contre la roche. Près de l'entrée du port, des officiants faisaient sonner les cloches de fer suspendues à la muraille rocheuse. Stimulés par le son des tambours, Crieux sautait d'un pied sur l'autre, pas en rythme, mais chez lui c'était une habitude.
« Mon roi Calvaire !»
s'écria-t-il.
« Et le dieu serpent ! Oui, serpent, serpent, serpent ! Du sang pour notre guerre !»«
Nous nourrirons le dieu !» dit Calvaire. « Et en échange, il nous donnera du courage et de la force !»
Le capitaine Kor attendait au bout du quai, devant ses 10 galères. Un peu plus loin, Lars surveillait les 10 siennes. Le reste de l'armada mouillait au-delà des récifs n'attendant qu'un ordre pour cingler vers Ildakar. D'un pas raide, Kor vint se camper devant son roi.
« Majesté, assister au sacrilège à tes côtés est un honneur. En plus de ta flotte, le dieu serpent bénira et stimulera la mienne. »
Ouvrant la bouche en grand, histoire de dévoiler ses dents jusqu'aux molaires, Calvaire émit un sifflement semblable à ceux du dieu serpent. Crieux en rit de bonheur.
« Le dieu serpent bénira et stimulera mon armada, et il devra aussi vous pardonner à toi et à ta bande de poltrons. Tu crois que le sang de Yorick suffira pour atteindre ces deux objectifs ?»«
Yorick est un homme fort. Le dieu sera satisfait, je pense. »
Partout, la foule se massait afin d'assister de loin aux événements. Pour l'occasion, presque toutes les femmes avaient amené leurs enfants qui ouvraient des yeux ronds comme des soucoupes. Dans le lot, Calvaire remarqua des adolescents, qui auraient bientôt l'âge d'être incisés, et de très jeunes hommes qui arboraient des joues ouvertes puis cousues, mais très récemment vu la couleur violacée des cicatrices. Quelques gamins, enfin, avaient le bas du visage bandé. Ces jeunes rocailles assistaient aux préparatifs de guerre avec des yeux brillants d'envie. Une bonne partie des mères, équipées et armées jusqu'aux dents, partiraient combattre avec l'armada. Entre les mains d'esclaves de confiance, leur progéniture attendrait avec impatience leur retour. Calvert regarda ses sujets qui rivaient sur lui des yeux pleins d'admiration. Tous le redoutaient, et c'était une saine terreur. Sous son règne, ces gens avaient avancé sur le chemin de la gloire et de la prospérité, mais il avait passé trop d'années au bastion. Il était temps de revenir sur le terrain pour briser des os, trancher des muscles et sentir un geyser de sang chaud asperger son visage. Oui, il s'était encroûté. Mais avant de partir, il lui fallait la bénédiction et la force du dieu serpent. Laissant la foule en sécurité dans le port, Calvert, suivi par Crieux et par Cor, s'engagea sur l'étroit chemin de pierre qui serpentait le long de la rive. Atteignant rapidement la crique où viendrait le dieu serpent, les trois norocailles approchèrent de deux piliers de pierre munis de fer à hauteur de cheville et de poignée d'homme. Le site des sacrifices, à bonne distance du port et des navires qui mouillaient au large. Dans des canots, des hommes et des femmes de la flotte plus curieux que les autres se laissaient dériver près des récifs où ils n'auraient rien à craindre quand le dieu serpent arriverait. Également poussés par la curiosité, quelques capitaines de galères avaient pris le risque d'approcher afin que leur équipage ne perde pas une miette du spectacle. Dès qu'il aurait entendu les cloches et les tambours, le dieu serpent répondrait à l'appel de ses adorateurs.
« Il faut nous préparer et vite !»
lança Cor, les yeux rivés sur les piliers où n'était attaché aucun prisonnier.
« Très vite même !»«
Préparer, oui !» s'écria Crieux. « Mon roi Calvert, pour Yorick, ce sera un calvaire !»
Une chaloupe, propulsée par deux rameurs, entra dans la crique. Agenouillé à la proie, Yorick ne semblait pas paniquer. Bien au contraire, il regardait les piliers jumeaux avec un suprême détachement. Puis il tourna la tête et sonda le large d'où viendrait bientôt le monstre. Le visage de marbre, Cor étudia son ancien ami.
« Serpent, serpent, serpent !»
couina Crieux.
« Je l'ai vu ! Sang, guerre et victoire !»
Il inclina la tête et marmonna sinistre.
« Mais qui gagnera et qui mourra? Le dieu serpent, lui, festoiera. »«
Tais-toi, Crieux !» ordonna Calvert. « C'est un moment solennel, capital pour notre avenir même. »«
Notre avenir, oui, si Ildakar n'est pas parti quand nous arriverons. »«
Ildakar sera encore là et tombera, » assura le roi. « Et si tes hommes font correctement leur travail, Cor, toutes les villes côtières seront à nous. »«
Lars et moi, nous n'en épargnerons aucune, mon roi, »
répondit le capitaine.
« Ces cités n'auront jamais connu un fléau comparable aux norocailles. »
Les deux rameurs de la chaloupe accostèrent, arrimèrent leur embarcation à un rocher, puis poussèrent Yorick, qui n'eut pas besoin de cet encouragement pour sauter à terre. Nu comme un ver, il alla prendre place entre les deux piliers. Impressionné par le corps musclé et couvert de tatouages du guerrier, Calvert nota qu'il se comportait en digne norocaille malgré son fiasco impardonnable.
« En le dévorant, » dit Cor, « le dieu serpent détruira sa faiblesse et augmentera notre force à tous. »«
Capitaine, tu devras détruire aussi ta propre faiblesse. »«
Je sais, la honte aiguisera la lame de mon épée et le tranchant de ma hache. » Alors un flot de sang lavera mon indignité. De leur côté, Lars et ses hommes feront de même.
Après lui avoir passé les fers au poignet, les deux gardes immobilisèrent les chevilles du condamné dont les pieds touchaient à peine le sol. Depuis l'autre bout de la crique, Crieux observait attentivement le futur supplicié. Yorick, lui, contemplait la mer sans même songer à se débattre. En toile de fond, les cloches et les tambours continuaient à appeler le dieu. Abandonnant le condamné, les deux norocailles remontèrent dans leur chaloupe et s'éloignèrent à la hâte. Désormais, le dieu serpent ne tarderait plus. Calvert approcha d'un grand gong accroché à un tronc d'arbre apporté par la marée, ramassa le marteau et cria
« Dieu serpent, nous avons une offrande pour toi. Il nous faut ta force et nous te donnerons la nôtre. Aide-nous à nous enivrer du sang de la victoire. »
Comme un guerrier qui veut fracasser le crâne d'un ennemi, Calvert abattit le marteau sur le gong. Alors que le son se répercutait sur toute l'île et alentour, les guerriers embarqués sur les galères et la foule du port éclatèrent en vivats. Comme pour leur répondre, les cloches et les tambours se firent plus insistants. Crayeux prit le marteau à son roi et tapa plusieurs fois sur le gong. Seul sur son avancée rocheuse, Yorick ne frémit pas quand une ondulation apparut à la surface de l'eau, vite suivie par la pointe d'une nageoire. Le dieu serpent. Sur les galères et dans le port, des cris excités montèrent. Un moment, Calvert craignit que ce bruit détourne de son but l'énorme créature, mais elle continua à se diriger vers le supplicié. Son long corps désormais visible, le monstre fendait l'air, ajoutant des ondulations de son cru aux vagues qui se jetaient toujours contre la falaise.
« Dieu serpent !»
beugla Yorick.
« Je t'appartiens !»
Un cri d'abandon avec pourtant quelque chose d'un défi. À quelques encablures du but, le serpent marin sortit enfin de l'eau, sa longue tête presque aussi pointue que celle d'une lance. Sur sa nuque et sous ses mâchoires, des branchies rouges palpitaient sur le fond bleu et vert de ses magnifiques écailles. Aussi gros qu'une tête d'homme, ses yeux se rivèrent sur Yorick et un filet de bave dégoulina de ses crocs. « Décidément, » songea Calvert, « la figure de proue la mieux réussie était loin de rendre grâce à la beauté et à la sauvagerie de cet être. » Ouvrant la gueule, le dieu serpent émit un long sifflement. Au risque de faire craquer les coutures de ses joues, Calvert imita ce cri primal. Hilar, Yorick se débattit enfin, pas pour s'enfuir, mais pour rapprocher du dieu serpent. Stupéfié et émerveillé, le roi Calvert frissonna. Devant le monstre fabuleux, il se sentait petit, faible et insignifiant. Terrorisé, corps tomba à genoux. Sur les galères, les norocailles rugirent d'excitation. Dans le port, le son des cloches et des tambours gagna encore en intensité. Insensible à tout, Calvert n'entendait et ne voyait plus rien. Seul comptait le dieu serpent et l'homme qu'il dévorerait bientôt. Immobile, le reptile se dressait au-dessus de Yorick, qui continuait à crier et à se tortiller dans ses fers. Les sangs glacés, Calvert se demanda ce qui arriverait si le dieu serpent refusait le sacrifice. Si la folie de Yorick l'y incitait, les norocailles seraient-ils maudits? La guerre de conquête s'achèverait-elle avant même d'avoir commencé? À la vitesse de l'éclair, le reptile fondit sur Yorick, referma les mâchoires sur son torse et en arracha un gros morceau de viande sanguinolente. Détaché de l'épaule, le bras droit de Yorick resta accroché à son fer. Quand il en eut fini avec le supplicié, en quelques coups de mâchoire, le dieu goba délicatement ce dernier trophée, histoire de ne rien gaspiller. Puis, il tourna la tête vers Calvert qui réussit à ne pas détourner le regard. Mort de peur, Crayeux se cacha derrière son roi, les bras passés autour de sa taille. Calvert s'en aperçut à peine. Les yeux dans ceux du dieu, il partagea ses pensées. Alors le sang se mit à bouillir dans ses veines. Exalté, il se tapa du poing sur la poitrine. Satisfait, le dieu serpent plongea de nouveau et s'en retourna d'où il venait. Le signe était clair, comprit Calvert. Un grand destin attendait les norocailles.